Parmi les points de convergence qui nous rassemblent, la question de la mémoire est certainement un maillon fort. Alors, je dirais pour deux raisons essentielles. La première, elle est très, très générale et un peu banale. Travaillant sur la littérature, les arts de l'image et de la scène, les productions artistiques en général, eh bien, on a forcément quelque chose à voir avec la mémoire, pour autant qu'une œuvre d'art, c'est aussi et d'abord peut-être un lieu de mémoire qui témoigne à sa façon d'un moment esthétique et d'un moment historique. Hein. Sous toutes les formes qu'il peut investir, l'art est aussi ce qui sauve de l'oubli, comme l'écrit Baudelaire avec une belle phrase, et ce qui sauve les choses précieuses dont la forme va disparaître et qui demande une place dans les archives de notre mémoire. Donc on peut s'intéresser aux œuvres esthétiques comme invention, une mémoire individuelle qui croise aussi une mémoire collective, hein, et c'est le projet de bien des œuvres littéraires et cinématographiques. Et parmi les œuvres littéraires, je dirais que l'exemple archétypal, ce serait La recherche du temps perdu, hein, de Proust. Et c'est une des lignes de recherche que nous avons suivies, hein, dans notre laboratoire. Je rappelle cet axe valorisation et du patrimoine littéraire et artistique, et donc l'objet bien signifié par le titre de ce programme, c'est bien de valoriser, de gérer, d'inventorier un certain nombre de biens patrimoniaux, de biens culturels, esthétiques et artistiques patrimoniaux, et d'essayer de les transmettre en faisant bien sûr œuvre de mémoire, mais aussi œuvre de transmission, de médiation. Mais aujourd'hui, dans cette table ronde qui nous réunit, c'est un autre aspect des liens entre création et mémoire que nous voudrions évoquer. Non pas la création littéraire artistique comme mémoire, mais la mémoire, les mémoires de la création. En tant que chercheur en littérature, cinéma, théâtre, art visuel, les œuvres, bien sûr, nous intéressent au premier chef, mais je dirais que tout autant, hein, et c'est ce qu'on va essayer d'évoquer aujourd'hui, tout autant leurs conditions de création, leur genèse, les étapes qui ont marqué leur lente ou fulgurante naissance, mais aussi leur réception, les chemins divers qu'elles se sont frayés pour arriver jusqu'à leur destinataire, et les divers accidents, toujours imprévisibles, rencontrés sur leur chemin. En d'autres termes, ce dont on parlera aujourd'hui et ce qui nous rassemble ici, c'est l'œuvre de l'œuvre, hein, le travail de l'œuvre, envisagé dans ses avant, dans ses marges, dans ses après. Hein, et cette œuvre de l'œuvre, je dirais, s'offre à nous comme un vaste réseau d'archives de tous ordres. D'archives où tout communique, mais où tout communique un peu dans le désordre. Et notre travail à nous, chercheurs, dans ce domaine-là, consiste à rétablir des liens, hein, entre tous ces documents et toutes ces mémoires diverses des œuvres, et de retracer leur parcours. Alors, ces archives de la création, qui constituent la mémoire de ces œuvres, se compose de documents très variés. Et en ce qui concerne les œuvres littéraires, il y a bien sûr les brouillons, hein. Brouillons ici d'un chapitre Madame Bovary, brouillons, je cite, j'illustre un peu ces exemples, mais bon, tout cela va un peu de soi. Brouillons de La vie mode d'emploi de Pérec, qui vont permettre des études de génétique textuelle, dont il sera un petit peu question aussi dans les interventions des communicants. Il y a bien sûr aussi les correspondances, hein, qui sont une mémoire vive des créations littéraires et artistiques. Avec des moments de crue, hein, des moments historiques de crue comme au XIXe siècle, où là, les correspondances sont très abondantes, elles le sont encore au XXe, et puis, bien sûr, aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu différent, il y a d'autres médias pour, d'autres supports, pour, comment dire, retrouver les traces, hein, de ces genèses esthétiques, lettres de Émile Zola à Manet, lettres de Balzac à l'Académie française, c'est aussi intéressant, ces les archives ne nous parlent pas uniquement des œuvres, elles nous parlent aussi des auteurs, des écrivains, des écrivaines, des cinéastes, puisqu'il en sera question, et de leur rapport aux institutions. Hein. Ici, une lettre où Balzac entreprend une campagne pour se faire élire à l'Académie française, chose à laquelle il ne parviendra jamais. Bon, il y a aussi les carnets de travail. Hein. Bon, il y a carnet beaucoup d'écrivains. J'imagine, Myriam va parler des archives cinématographiques. Voilà, c'est quelque chose qui peut nous servir aussi à nous, chercheurs, pour recomposer le parcours, un parcours d'écrivain, un parcours de créateur, à quoi il faut ajouter, dès la fin du 19e siècle, et même la dernière partie du 19e siècle va être très friand de ces photoreportages, les photos, les enregistrements, qui portent les traces diverses et variées du processus de création. Bon, alors, oui, il y a troisième chose aussi, enfin, pas troisième chose, je ne sais plus où j'en suis dans mon énumération, mais je dirais, il y a toutes les archives médiatiques qui commencent dès le 19e siècle, archives de presse, hein, bon, j'ai trouvé ça, c'est pas bien, il y a peut-être mieux à trouver, mais ça nous rappelle qu'au 19e siècle, la littérature passe d'abord par la diffusion journalistique, hein, et que donc on va trouver dans la presse aussi beaucoup de choses sur la réception, lettres de lecteurs aussi, hein, on écrit beaucoup, qui vont nous permettre de restituer finalement un paysage. Les objets que l'on traite dans notre laboratoire au sein de cet axe, archives de la création, c'est finalement tout cela. Hein, c'est-à-dire un objet tout à fait composite, hétéroclite, hétérogène, qui prend des formes variées en fonction des siècles, mais qui existe à tous les siècles et qui nous permettent des approches elles aussi diversifiées de la création et du fait esthétique et culturel. J'ai parlé un petit peu en tant que littéraire, mais je vais laisser maintenant Myriam parler en tant que spécialiste de la création cinématographique et de son histoire aussi. Et nous laisserons ensuite la parole aux trois intervenants qui vont présenter leurs travaux, à la suite de quoi on pourra ouvrir un petit débat.
Merci. Oui, alors juste quelques mots sur le cinéma qui présente beaucoup finalement de similitudes aussi avec finalement le domaine littéraire. Pour commencer, je dirais que le développement en fait de la recherche sur le cinéma et donc des études cinématographiques a historiquement privilégié en fait en France tout particulièrement l'analyse interne de l'image. Hein, il s'agissait de comprendre et d'étudier les films à partir d'eux-mêmes. Donc l'histoire du cinéma elle-même d'ailleurs, après avoir d'abord été une histoire technique, elle a tôt pris la forme en fait d'une histoire qu'on peut qualifier de cinéphile, qui reposait en fait sur le goût de ceux qui l'écrivaient, en s'appuyant sur la mémoire qu'ils avaient des films qu'ils avaient vus, hein, et qu'ils s'efforçaient de classer, de trier, de hiérarchiser. Pourtant, l'intérêt hein, pour tout ce qui permet de documenter la création cinématographique et également sa réception, hein, se manifeste déjà chez un historien comme Georges Sadoul au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Sadoul ayant conscience justement que de l'insuffisance de sa mémoire pour écrire, sa mémoire aussi monumentale soit-elle, hein, pour écrire seule une histoire du cinéma. Donc cet intérêt pour les archives a gagné considérablement en importance aujourd'hui. Hein, appuyé sur des documents qui sont également extrêmement divers et que je vais vite évoquer, il sert des recherches qui ont des orientations qui elles-mêmes sont plurielles. Alors je voudrais, dans un premier temps, souligner, comme a pu le faire Brigitte, l'extrême diversité des archives qui documentent la mémoire de la création cinématographique. Donc un petit tour d'horizon, en empruntant les deux catégories qu'on a l'habitude voilà, de distinguer, qui sont les archives non-films d'une part, et les archives proprement filmiques. Donc archives non-films, soit un ensemble d'écrits, d'images fixes, les archives filmiques étant évoquées après, qui accompagne un film de sa phase de production et même de pré-production à sa réception en passant par sa diffusion. On pense bien sûr aux scénarios, et les scénarios, en fait, il faut voir que non seulement il y en a souvent plusieurs versions, parce que plusieurs étapes, mais aussi plusieurs copies à noter par les différents collaborateurs des films. Donc scénario bien sûr, mais aussi également correspondance, hein, comme on a pu l'évoquer pour la littérature. Notes diverses, hein, des contrats, hein, parce que bien sûr le cinéma c'est aussi une industrie, et documenter la création cinématographique c'est aussi savoir comment les budgets se sont montés, comment l'argent s'est réparti. Donc des devis, des photographies de tournage, des maquettes de décors, des storyboards, des entretiens, voilà, l'œuvre critique d'un cinéaste aussi, qui peut documenter sa création, comme on le verra tout à l'heure avec Esther Allais. Donc c'est cette diversité, voilà, qui donne un peu le vertige, hein, elle est révélatrice en fait de la nature même, en fait, hein, du cinéma et du processus complexe de création dont il procède, hein. Il nous rappelle, si besoin était, que le cinéma c'est toujours une œuvre collective, même si la personnalité d'un collaborateur, et on pense souvent au metteur en scène, mais ça n'est après tout pas toujours le metteur en scène, même si la personnalité d'un collaborateur tend souvent à s'imposer. Il y a évidemment aussi les archives filmiques, hein, qui documentent la création cinématographique. Ça, je vais y arriver dans un petit instant. Alors, ce sont d'abord les films eux-mêmes, je dirais, qui sont parfois leurs propres archives, au moins pour l'époque qui est aujourd'hui globalement révolue du cinéma argentique, hein. Les spécialistes du cinéma muet, par exemple, se traquent, hein, sur les copies à travers les coupures, les collures, les annotations qu'on peut trouver dans les marges de la pellicule, hein, traquent des indications qui leur permettent parfois de reconstituer des films incomplets, hein, de comprendre l'œuvre dont qu'ils ont sous les yeux. Alors ce sont également tous les documents de nature filmique qui sont réalisés autour de la création proprement dite et qui la documentent, les essais d'acteurs, les rushs, les scènes coupées, les répétitions. Des documents qu'aujourd'hui on trouve à foison sur les bonus des DVD, et qui interrogent d'ailleurs sur leur production elle-même, hein, les fins auxquelles ces documents sont produits, les usages auxquels ils donnent et les biais que ces usages risquent d'introduire dans la recherche, hein, d'un chercheur qui ne serait pas assez rigoureux. Donc des documents qu'on trouve aujourd'hui à foison, mais dont on a aussi des exemples, hein, pour des œuvres plus anciennes. Donc une très grande variété de documents, hein, pas toujours abondants, hein, parce que parfois quand on travaille, moi travaillant sur l'entre-deux-guerres, j'en sais quelque chose, hein, certains films sont très peu documentés, hein, mais des documents extrêmement variés qui offrent matière à des recherches aux orientations elles-mêmes plurielles. Alors je voudrais juste distinguer un certain nombre d'usages, hein, que les chercheurs, les spécialistes peuvent faire et font de ces archives. Le premier, c'est un usage pratique, et il est essentiel, hein, pour la recherche sur le cinéma, c'est la restauration des films. Ces documents aident les restaurateurs à reconstituer des films, à compléter des copies, à en proposer de nouvelles versions. D'ailleurs, ils documentent non seulement les films qui sont parvenus jusqu'à nous, mais aussi des films perdus, hein, ou même des films qui n'ont jamais été tournés, hein. Le deuxième axe, hein, porte sur la génétique des œuvres, hein, donc dans une approche qui est tout à fait similaire à celle des études littéraires, hein, où il s'agit de comprendre comment le film a trouvé sa forme définitive, hein, en étudiant toutes les étapes, les recherches, les tâtonnements, hein, qui ont mené à celle-ci. Le troisième axe, ce serait celle des artistes au travail, qui est un peu une variante de l'approche précédente et qui la complète, mais qui, dans le cas du cinéma, présente vraiment des spécificités en raison de la nature collective, hein, de l'œuvre cinématographique. L'artiste au travail, c'est l'artiste aussi, c'est l'étude des collaborations artistiques. Et enfin, dernier axe, qui correspond d'ailleurs aux recherches que je mène, hein, personnellement, qui est celui de l'histoire culturelle du cinéma. Donc une histoire qui n'a pas seulement pour objet les films dans leur dimension artistique, mais bien le cinéma comme fait social. Une approche qui est donc évidemment particulièrement soucieuse, hein, de contextualiser la création des films, de la replacer dans un contexte médiatique et culturel en englobant tous les aspects de leur processus de production comme de réception. Alors juste pour conclure sur cette petite introduction, le cinéma est un art et une industrie qui est jeune. Il y a beaucoup de documents qui sont toujours dans les familles, beaucoup de documents aussi qui ont disparu, perdus, en raison d'un manque d'intérêt des ayants droit ou de tri effectué sur des critères qui n'étaient pas du tout scientifiques. Mais il y a aussi parallèlement une meilleure accessibilité de plus en plus à certains documents du fait de leur publication, du fait de leur numérisation, au risque parfois de perdre ce que la matérialité d'un document peut nous apprendre aussi. Je pense que la numérisation est aussi un domaine sur lequel il faut réfléchir et l'impact qu'il peut avoir sur l'accès qu'on a à la mémoire de la création. Et tout ce travail de mise à disposition soutient l'essor des recherches actuelles, toute approche confondue sur les rouages de la création cinématographique. Donc essor, je dirais, donc de publication, de mise en accès des documents, qu'a pu rencontrer au cours de ses recherches Esther Hallé.
Oui, donc je vais parler en fait tout particulièrement aujourd'hui des archives critiques de Pietrangeli, mais vous allez voir que quand je vais présenter les archives de Cesena, où sont donc conservés tous ces documents de travail, les archives sont bien plus riches et contiennent bien d'autres types de documents qui sont aussi d'autres types de témoins de la création qui est donc notre sujet aujourd'hui. Peut-être qu'avant de présenter les archives, je vais présenter brièvement Antonio Pietrangeli et son œuvre. Il est donc un cinéaste italien qui a réalisé la plupart de ses films dans les années 50 et 60. Son œuvre filmographique, même si elle était finalement assez commerciale et a obtenu une reconnaissance critique assez bonne en Italie à l'époque, c'est un réalisateur qui est un petit peu oublié en Italie et méconnu en France. Voilà. Alors avant d'être réalisateur, il a été critique pendant près de 10 ans, c'est-à-dire entre 39 et 48, pour des revues spécialisées italiennes et aussi des revues plus grand public. Alors, pour les revues spécialisées italiennes, il a écrit dans Bianco e Nero, Cinema, qui étaient à l'époque les revues les plus importantes, et donc dans des revues plus populaires comme Fotogrammi et Star. Voilà, il a ensuite, à partir de 48, été scénariste pour d'autres réalisateurs comme Visconti ou Rossellini, ou encore Alberto Lattuada. Et enfin, en 53, de façon un petit peu plus tardive par rapport à ses compagnons de Bianco e Nero, critiques, souvent futurs réalisateurs, comme De Santis, par exemple, il a pu réaliser son premier film en 53, Le soleil dans les yeux. Voilà. Et son dernier film, c'est aussi sans doute son film le plus connu, Je la connaissais bien, en 1965. Voilà, il est mort prématurément dans un accident, donc en 68, ce qui fait que sa filmographie est composée seulement, disons, d'une dizaine de longs métrages. Voilà, alors l'objet de ma thèse, c'est de mettre en rapport son activité critique avec son œuvre de cinéaste, avec son œuvre filmique. Donc j'étudie ses textes critiques comme des mémoires ou comme une mémoire, comme ce qui constitue une mémoire de la création. Voilà, alors du coup, les archives Pietrangeli, à ce titre, sont très importants dans mon travail. J'y ai effectué plusieurs séjours. Alors ces archives se situent à Cesena, en Italie, pas très loin de Rimini, et ils sont intégrés aux archives photographiques de Cesena, qui conservent plus particulièrement des photos de tournage. Voilà, et ils sont, les archives Pietrangeli à proprement parler, sont nées en 92, au moment où les fils de Pietrangeli ont confié au centre de Cesena tous ces documents de travail. Donc ces documents de travail, ils constituent des archives très importantes, ça représente une pièce entière, surtout que Pietrangeli était très méticuleux et conservait absolument tout, depuis ses correspondances avec ses producteurs ou avec des actrices, voilà, et conserver vraiment tous ces documents de travail. Et donc, si on devait faire une typologie de ces archives, il y a d'un côté les archives un petit peu plus personnelles, la correspondance, hein, même des factures, des choses comme ça, les archives critiques, donc tous les textes critiques de Pietrangeli, les archives de projets inédits, non réalisés, puisque comme beaucoup d'autres réalisateurs, hein, souvent les projets ne se concrétisent pas. Donc des scénarios, alors ça peut être des scénarios entièrement résiliés dans plusieurs versions, de simples sujets ou de projets d'histoire, hein, des petits traitements. Et enfin, les archives, disons, de ses films, de ses propres films, donc les différentes versions des scénarios qui ont donné lieu ensuite à ces films, etc. Alors, l'idée de base dans ma thèse était d'inclure tout ce type d'archives, de scénarios et de projets inédits. Mais comme ça représente une quantité trop importante de documents, hein, il y a environ 70 projets inédits, hein, de Pietrangeli, j'ai finalement décidé de laisser de côté ces types d'archives et me concentrant exclusivement sur les archives critiques et les films. Donc l'idée de ma thèse, c'était, en étudiant ces archives critiques, était de voir comment on pouvait retrouver ces thématiques de prédilection, disons, dans ces textes critiques, dans ces films. Et cette thématique est ressortie de façon assez naturelle, finalement, c'est celle du réalisme au cinéma. Puisque Pietrangeli a commencé à écrire des critiques à la fin des années 30 et au début des années 40, c'est-à-dire pendant un moment où les revues spécialisées, Bianco e Nero et Cinema en particulier, était dans une période de débat, hein, sur la question du réalisme au cinéma, et qui a justement donné lieu, de la part de ces critiques devenus réalisateurs à partir de 1943, comme Visconti, à l'éclosion de la saison néo-réaliste. Donc c'est le début de son activité critique, elle se caractérise vraiment par ce débat sur la question du réalisme au cinéma, et on voit qu'au fil, au fur et à mesure du temps, cette question, Pietrangeli se distancie un petit peu d'une esthétique néo-réaliste définie de façon trop étroite, et ce qu'on retrouve justement dans sa filmographie et dans ses personnages féminins tout particulièrement. Donc voilà, ça c'était le projet entre les textes critiques et ses films. Et maintenant, si je devais, en présentant un peu plus précisément ces archives critiques, vous allez voir qu'ils ont un statut un petit peu ambigu, puisque ces archives critiques ont pour la plupart été éditées en volume par le centre de Cesena. Donc ce qui pose la question, hein, de ce qui fait archive, est-ce qu'on peut encore considérer que, parce qu'ils ont été édités en volume, ces textes constituent encore des archives ou non, hein, et d'autant plus que ces textes critiques, dans les cas de Bianco e Nero et Cinema tout particulièrement, sont des textes qu'on peut retrouver dans les archives de Bianco e Nero et de Cinema. Ce qui en revanche n'est pas le cas pour les revues plus populaires dans lesquelles Pietrangeli a écrit, c'est-à-dire Photogrammi et Star, qui n'ont pas d'archives ou dont on peut retrouver des numéros, mais de manière beaucoup moins rationnelle que pour Bianco e Nero et Cinema. Donc, voilà, ces archives ont un statut un petit peu particulier, mais je considère qu'ils constituent toujours des archives pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est que ces éditions ne sont pas commercialisées, donc il s'agit de 4 volumes qui ont été édités mais qui ne sont pas vendus dans le commerce. On peut les consulter seulement sur place ou bien dans 2 bibliothèques universitaires à Bologne et à Rome. Donc voilà, l'édition de ces archives, elle est vraiment destinée en tout cas plutôt aux chercheurs et aux historiens qui voudraient avoir un accès facilité à ces textes, et non, au lieu d'aller à l'archive de Cesena et ouvrir chacun des cartons où se trouvent les critiques de Pietrangeli. Dans le même temps, chaque volume a quand même une préface. Hein, donc, ce sont des préfaces qui ont été écrites par Giampiero Brunetta, qui est un des plus importants historiens du cinéma italien de cette époque. Mais ces préfaces présentent le contexte général de ces critiques et ne font pas vraiment un travail d'analyse approfondi. Il y a aussi une autre question qui fait qu'on peut se demander si ces textes continuent toujours des archives, c'est qu'ils ne sont pas les seuls témoins. Ces documents-là, ce sont avec le travail de l'édition, la publication, la possibilité de consultation facilitée et le fait qu'on aurait pu accéder à ces textes par d'autres biais, le statut évidemment de ces textes comme archives. Voilà.
Merci. Alors moi, j'ai une question concernant en fait un petit peu la méthodologie que tu mets en œuvre pour justement éclairer la création cinématographique à partir de cette œuvre critique. Et c'est une question à tiroir, du coup. Est-ce que, comme tu travailles sur un cinéaste italien, est-ce qu'il y a d'autres travaux qui ont été menés sur d'autres cinéastes qui peuvent te guider dans ton propre travail, avec des différences éventuelles entre une approche française, justement, et italienne?
Le fil directeur, dans mon étude de ces textes, c'est la question du réalisme au cinéma, puisqu'il commence à écrire pendant la germination, ce qu'on pourrait appeler la germination du néoréalisme dans la critique italienne. Donc c'est vraiment à partir de cette question qu'il commence à écrire, et ça reste une thématique à laquelle il s'intéresse jusqu'à la fin de ses activités critiques. Et comme par ailleurs son premier film est un film d'inspiration néoréaliste, puisqu'en 1953 on considère que la saison néoréaliste est déjà passée, il réinvestit, il retravaille cette question encore dans l'ensemble de sa filmographie, même dans les comédies, dans ses mélodrames. Et donc il y a un gros travail de classement des textes, à la fois selon les types de les revues dans lesquelles ils sont publiés et aussi par pays américain sur le cinéma français et sur le cinéma soviétique. Sinon, pour ce qui est de la recherche italienne et française sur Pietrangeli, en France, il n'y a pas eu de publication sur Pietrangeli. C'est donc vraiment mes références restent italiennes. Mais je dirais que ce qu'il y a peut-être en France qu'il n'y a pas en Italie, c'était une façon d'éclairer ces rapports à l'aide d'outils sociologiques que j'ai pas retrouvé en tout cas sur Pietrangeli ou sur d'autres cinéastes critiques puis cinéastes italiens de cette même génération. Je pense à un ouvrage qui a été publié en France sur la revue de cinéma et qui explique comment la défense du réalisme dans cette revue est aussi un outil de légitimation pour toute une génération qui cherche à s'affirmer dans le champ culturel italien. Donc, et ça, c'est vrai que j'ai pu la retrouver aussi chez Laurence Cotto-Dardino, qui est un chercheur français. Ça, c'est vrai que c'est un outil qui a été déterminant.
Bon, on va rester dans le domaine italien, avec Antoine Letournel. Antoine Letournel qui a entrepris un travail aussi sur un fonds d'archives, des archives totalement inédites qui se trouvent conservées pas très loin d'ici, à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, autrement dit l'IMEC, et qui concerne donc une écrivaine, elle aussi assez peu connue du grand public, Nella Nobili. Donc Antoine Letournel va présenter son travail et va poursuivre cette interrogation qui s'est ouverte là avec Esther concernant la méthodologie à adopter face à ces sources qui souvent sont inédites, on l'a vu, et donc inexploitées. Comment faire si l'on perçoit bien la richesse de l'archive, il est plus difficile d'en tirer justement toute la substance. Et je crois qu'Antoine va exposer donc le travail qu'il a entrepris déjà depuis un an, je crois, sur ce fonds d'archives. Donc je lui laisse la parole.
Pouvez-vous parler d'une poétesse italienne, elle aussi malheureusement méconnue, assez connu, mais autrefois encensé par la critique et le grand public. Et à l'occasion de la Semaine de la mémoire, j'aimerais vraiment aborder la question de la conservation, mais aussi de la valorisation des archives, à travers la présentation d'un fonds spécifique qui est conservé à l'IMEC, et donc c'est le fonds Nella Nobili. Les sources d'archives constituent une partie non négligeable de la mémoire d'un État, d'une société, d'un peuple, voire du monde entier. Leur préservation et leur étude permettent à la fois d'entretenir et d'enrichir notre patrimoine culturel. Dans le domaine littéraire, le rôle joué par l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, qui est ici à l'abbaye d'Ardennes, non loin d'ici, s'inscrit pleinement dans cette démarche de transmission et de partage de ce qui peut s'apparenter à un bien commun. La mémoire culturelle, est un bien commun. L'IMEC a pour principal objectif de contribuer à la découverte ou redécouverte d'auteurs contemporains, mais aussi de certains pans de la littérature française et internationale. Mes travaux de recherche visent à cet égard à faire connaître le parcours et l'œuvre d'une poétesse italienne du XXe siècle, dont les archives personnelles ont été rassemblées à l'IMEC. Le fonds d'archives Nella Nobili, déposé en 2012, est d'une grande richesse pour le patrimoine culturel, aussi bien français qu'italien. Ce fonds n'a pourtant fait l'objet d'aucune exploitation scientifique. De même, il n'existe aucune source secondaire se rapportant à la vie ou à l'œuvre de l'auteur, ce qui fait que le travail à faire reste entier. Ainsi, face à un champ d'exploration inédit, la question de l'approche du chercheur se pose. Quelle méthodologie adopter face à des sources inexploitées? Quels peuvent être les avantages et les inconvénients liés à l'étude de ce type de fonds? Afin de répondre à ces quelques questions, j'aimerais tout d'abord évoquer, en lien avec la mémoire, le parcours d'une poétesse vraiment à redécouvrir, pour ensuite expliquer de manière un peu plus approfondie le rôle de l'IMEC, qui est très important, dans la conservation et la valorisation des archives, pour terminer sur les avantages et les inconvénients liés à l'étude d'un fonds inexploité. Alors, Nella Nobili est une poétesse italienne qui naît le 6 janvier 1926 à Bologne, au sein d'une famille très pauvre. Dès l'école primaire, l'auteur manifeste un intérêt tout particulier pour la poésie. Mais à 12 ans, n'ayant pas suffisamment de ressources pécuniaires, elle est amenée à devoir travailler afin de subvenir à ses propres besoins et à ceux du reste de sa famille. N'ayant pas atteint l'âge requis, elle doit enchaîner les petits boulots, comme on dirait maintenant, les petits métiers pour lesquels il n'est pas nécessaire d'avoir un livret de travail. Ainsi, elle trouve à s'employer en tant que porteuse de lait. Donc c'est un travail très dur pour une enfant de 12 ans. Par la suite, elle travaille au sein d'une usine de céramique. Là encore, imaginez-vous le travail à 12 ans au sein d'une usine de Bologne, dans les conditions d'époque. Puis, quelque temps après, elle accepte, contrainte par la nécessité, en janvier 1940, un poste d'ouvrière. C'est-à-dire que c'est un poste fixe qui lui offre un revenu fixe. C'est le seul intérêt, en fait, qui est pour une jeune fille de sa condition, de son âge, c'est-à-dire c'est d'être employée à l'usine. Il y a ceux qui peuvent continuer parce qu'ils ont les moyens, l'école, et ceux qui ne peuvent pas. Et là, on peut dire que les conditions sont dantesques, sans faire de jeu de mots. Les conditions de travail au sein de cette usine de verre sont épouvantables. La chaleur qui se dégage des flammes et du verre incandescent, les fumées de monoxyde de carbone, les particules, l'odeur, la promiscuité rendent le travail épuisant. Il faut bien se rendre compte que ces jeunes filles, ces jeunes femmes, travaillaient jusqu'à 12 heures par jour par des conditions exécrables, 40 degrés à l'intérieur, en plein été, c'était tout simplement intenable. Pourtant, la jeune Nella parvient d'une certaine manière à s'extraire de ce monde et à aller vers la culture. Elle parvient à lire, tant bien que mal, en cachette, pendant les heures de pause, ou le soir après le travail, à la lueur d'une bougie, seule dans un petit coin de sa cuisine. Elle glane, comme elle n'a pas d'argent, elle glane tout ce qu'elle peut, où elle peut. D'ailleurs, ses premières lectures, elle les doit à un voisin, qui chante dans les chœurs. C'est-à-dire que ses premières lectures ne sont pas des lectures pour enfants, ce sont des livrets d'opéra, et notamment ceux de Verdi. C'est assez exceptionnel quand même. Donc elle apprend à aimer les mots à travers Verdi. Avouez que c'est quand même assez original. En 1943, la guerre, le conflit qui s'étend à toute la péninsule italienne, contraint l'usine à fermer pour pas que cela explose, et elle trouve à s'employer en tant que jeune fille au sein de l'hôpital, du principal hôpital de Bologne. Et cette expérience va encore la marquer, comme celle de l'usine, parce que les conditions sont tout simplement épouvantables. On est en pleine guerre, il y a des enfants blessés, il y a des maladies qui se propagent dues au conflit, et c'est terrible. Et cette expérience, à la fois de l'usine et de son travail en tant qu'infirmière, on pourrait dire, va marquer son œuvre, et c'est ce qui va la pousser à s'exprimer à travers la poésie. C'est vraiment un tournant ontologique pour elle. Sauf que elle est contrainte, après la guerre, au sortir de la guerre, de retourner à l'usine. Il n'y a pas d'autre endroit où s'employer. C'est pour les jeunes filles de son âge le seul lieu. Donc elle est contrainte et forcée d'y retourner. Et cette fois-ci, elle se dit qu'elle ne peut plus tenir, et la littérature va lui être d'un grand secours. Tout simplement, elle va commencer à écrire, et peu à peu, ses œuvres vont se propager au sein d'un petit cercle à Bologne, et ça va conduire à ce qu'elle soit, son œuvre soit repérée, si l'on peut dire, par un directeur de journal. Le directeur du journal du Giornale della Sera, et ce journaliste va faire d'elle un portrait en première page du journal, et ça va la propulser, elle, la petite ouvrière, du jour au lendemain, en tant que phénomène littéraire. Et là, tout va changer pour elle, si l'on peut dire, puisqu'elle reçoit une proposition de publication de ses poèmes en 1949. Elle part du même coup à Rome, où a lieu, je dirais, toutes les mondanités propres au milieu littéraire, et elle côtoie les plus grands auteurs. Ses poèmes paraissent, ils sont intitulés sobrement Poésie, ça veut dire poème, aux éditions Tosi et Danzi. Cependant, elle, qui est issue d'un milieu modeste, est présentée comme un espèce de petit monstre, de petit phénomène. Et ça va beaucoup lui déplaire. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à s'insérer au sein de ces milieux romains un peu mondains. Donc elle va partir, elle va décider de quitter l'Italie, carrément, pour s'installer en France, à Paris. Elle veut découvrir une nouvelle culture, une nouvelle mémoire historique, si l'on peut dire. Et peu à peu, elle fréquente des artistes à Paris, elle fréquente les musées, elle continue à écrire. Mais elle se lance également dans la confection de bijoux fantaisie, elle fait déposer des procédés pour fabriquer des boutons de manchette, ce qui lui assure un revenu. Et tout en menant cette activité manuelle, elle fait son activité poétique, puisqu'elle continue à écrire. Et en 1978, soit près de 30 ans après son premier recueil, elle publie « La jeune fille à l'usine », qui est tout simplement son chef-d'œuvre. Ce recueil poétique est un aboutissement stylistique et personnel, reconnu et salué par de très grands écrivains, de l'époque, aujourd'hui un peu moins connu, Henri Thomas ou encore Michel Ragon. Alors cependant, le succès au public n'est pas à la hauteur, on pourrait dire, de l'espérance que pouvait susciter cette œuvre. Et tant bien que mal, elle va écrire dans des petites revues, mais on va dire que le succès s'est fait attendre. Voilà. Épuisée par son travail, par aussi une maladie qui l'a rongée depuis quelque temps, elle met fin à ses jours le 18 février 1985 à l'âge de 59 ans. Voilà brièvement son parcours, vous pouvez vous en apercevoir qui est assez exceptionnel. Et à présent, je vais vous parler des archives de l'IMEC, où sont conservées ces archives. Très brièvement, les collections de l'IMEC proposent le plus important catalogue d'archives littéraires privées de France. Elles offrent aujourd'hui à la recherche un ensemble patrimonial et documentaire exceptionnel. Parmi les fonds et les collections de documents de l'IMEC, on peut citer les fonds d'auteur, donc brouillons, manuscrits, notes de travail, les fonds d'éditeurs, dossiers éditoriaux, contrats, dossiers de fabrication, les fonds de revues et de presse, qui sont très riches, documents liés au fonctionnement de la presse, dossiers préparatoires, correspondances, et les fonds d'institutions et d'associations. Donc ce ne sont pas uniquement des fonds d'auteurs, c'est bien plus que cela, c'est tout un patrimoine, une mémoire française et même, je dirais, européenne. Fort de cette richesse culturelle et patrimoniale, l'IMEC apparaît ici comme une mémoire vivante, je pense que c'est le terme, de l'écrit, de l'édition et de la création. Le fonds Nella Nobili est conservé donc au sein de cet institut et il regroupe à peu près plus de 500 archives. Alors j'ai oublié de vous préciser qu'à l'IMEC, il y a quand même 350 fonds d'auteurs. C'est énorme, fonds d'auteurs contemporains. Mais pour revenir au fond, petit aparté, Nella Nobili, il est composé d'environ 1000 documents qui sont classés comme suit. Œuvre période italienne, donc je vous en ai parlé, la période française, la réception de l'œuvre qui concerne les articles de journaux, la correspondance, les dossiers biographiques, c'est-à-dire tous les éléments qui permettent de retracer son parcours, ce sont des éléments divers et variés, et les documents audiovisuels, ce sont les interviews données à la presse. Et les imprimés, ce sont d'autres œuvres qui n'ont pas été classées dans les œuvres période française et italienne. Alors, ce fonds, donc plus de 500 éléments d'archives à trier, contextualiser, interpréter et bien souvent à traduire, présente à la fois des avantages et des inconvénients, comme je vais vous l'exposer. Les sources primaires sont des travaux originaux et constituent une base de recherche et d'études. Ce matériau brut suppose une méthode de travail particulière, c'est vrai. Alors je vais vous présenter tout d'abord les avantages qui sont affichés. Alors ce fonds, il présente une richesse patrimoniale exceptionnelle dans le sens où on pourrait dire il se caractérise par sa pluridisciplinarité ou interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on a des documents qui parlent bien sûr de l'auteur, son œuvre, mais on a aussi des documents exceptionnels sur notamment les conditions de travail au sein des usines au mi-temps du XXe siècle, en Italie, ce qui est assez rare puisqu'il y a peu d'ouvrages et peu de documents dessus. Donc on a vraiment un document sur le vif, un témoignage bien que littérarisé, si on peut dire, mais d'une certaine manière, c'est un précieux témoignage historique et sociologique. On a aussi de précieuses correspondances avec de grands auteurs, c'est-à-dire qu'on peut voir certains auteurs sous des jours différents. Henri Thomas, par exemple, qui s'exprimait peu, qui était un grand poète dans les années 70, encensé par la critique, pas seulement par les milieux littéraires parisiens. Donc on peut voir sous un jour différent des auteurs. La poétesse dont je parle a aussi correspondu avec... correspondu, si on peut dire, avec Simone de Beauvoir. Donc vous voyez qu'on est aux prises vraiment avec de grands noms de la littérature européenne et aussi avec, je dirais, tout un patrimoine qui n'est pas celui seulement de Saint-Germain-des-Prés, mais qui est aussi le patrimoine français. Pour autant, bien que ces archives présentent beaucoup d'intérêt, du fait de son caractère inédit, des problèmes se posent aux chercheurs. L'absence de sources secondaires, tout d'abord, en effet, il n'y a strictement aucun livre, à part vraiment de tout petits articles, et ils doivent se compter sur les doigts d'une main, qui ont été publiés sur elle, ce qui fait que nous n'avons absolument aucune information. Donc nous sommes face, pas à un désert, mais j'ai envie de dire, on est face à un océan et tout reste à écrire sur elle. D'où la question aussi de devoir classer et dater les archives. Je pense que c'est le plus important parce que au sein du fonds de l'IMEC, il y a parfois des documents qui sont volants, si l'on peut dire, c'est-à-dire ils ont été rajoutés ou ils ne correspondent pas à la thématique indiquée, ce qui fait que le chercheur doit replacer. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple d'un poème qui a été traduit, c'est elle-même qui s'est chargée de le traduire en allemand. Il s'agit bien évidemment de savoir de quand elle date, et pourquoi elle a voulu traduire elle-même ses œuvres. Et donc toutes ces questions doivent être replacées dans une période précise qui est celle du sortir de la guerre en Italie. Donc il y a beaucoup de questions liées à la datation qui posent problème et des questions bien sûr de classement et d'écriture parce qu'il faut aussi se dire qu'il est très difficile de comparer les sources que l'on a avec d'autres éléments, sachant qu'il n'y a pas d'autres éléments. Donc on compare avec quoi ? je vous le donne en mille, on est obligé de faire avec ce que l'on a. Donc il y a des trous, il va y avoir des trous dans la mémoire, c'est le cas de le dire, sans faire de jeu de mots non plus, où il va falloir interpréter. Et là, on peut se dire que les passages sombres des archives nécessitent un travail peut-être aussi d'interprétation, mais d'imagination, véritablement. Donc voilà globalement ma présentation. Et pour conclure, j'aimerais dire, voilà, en l'absence de sources, les textes sont d'un important secours, les textes littéraires, hein, ça peut être romans, nouvelles, poèmes et autres éléments. Et en l'absence d'archives à proprement parler sur la vie, sur l'auteur, est-il possible de considérer que un texte aussi, j'ai envie de dire, romancé qu'il puisse être, constitue une archive à part entière? La question du doute est importante dans l'archive.
Petite question anecdotique, comment se fait-il que toutes ces archives se retrouvent à l'IMEC?
Alors, elles ont été déposées par l'ayant droit, Madame Editza, en 2012. Cette personne, donc l'ayant droit, a vécu avec l'auteur et s'est chargée, donc elle a fait un travail colossal déjà de tri. Elle avait trié tout d'abord, elle avait fait un tri préalable, et ensuite elle les a présentées à l'IMEC. Bien que la majeure partie de ces archives soient à l'IMEC, je dirais que d'autres archives existent, cette fois-ci en Italie. Je peux citer la fondation Giorgio Morandi à Bologne, qui a des lettres de l'auteur, et aussi à Rome, sûrement, au sein d'archives plutôt privées, je pense, cette fois-ci, c'est-à-dire en lien avec les milieux romains, avec de grands auteurs italiens. Il doit y avoir aussi des lettres et d'autres documents qui permettent d'en savoir plus sur cet auteur.
Et alors, dans votre travail, vous pouvez préciser le type d'exploitation que vous voulez faire de ce fonds, dont on a compris qu'il était extrêmement varié.
Alors, tout à fait. Alors, tout d'abord, ce qui est important, c'est d'essayer d'établir une biographie, si possible, la plus précise possible, de l'auteur, puisque en l'absence de biographie, que cela soit même une biographie courte, il faut présenter l'auteur et essayer d'apporter le plus d'éléments là-dessus. Ensuite, je m'intéresse à la réception de l'œuvre pour savoir ce qui a conduit une petite ouvrière de Bologne à devenir un phénomène littéraire et puis à replonger dans l'oubli. Et enfin, je m'intéresse à la traduction, puisqu'il faut savoir que non seulement c'était un écrivain incroyable, mais elle se chargeait également de faire beaucoup de traductions. Elle était traductrice, elle parlait l'allemand, l'anglais, le français et l'italien. Et il faut savoir qu'elle a appris toute seule les langues étrangères. C'est une autodidacte dans ce que ça a de plus beau, véritablement, une force de caractère incroyable. Et je m'intéresse à ce parcours. Alors, ce que j'aimerais faire à partir des archives, c'est présenter sa vie, bien sûr, mais aussi contribuer à ce qu'il y ait une rediffusion la plus grande possible de ses œuvres. Parce que je pense qu'un auteur ne peut être connu. Camus disait « Intéressez-vous à l'œuvre et pas à l'auteur ». Donc, il faut avant tout essayer de promouvoir cette œuvre qui est fantastique. Que ce soit d'un point de vue universitaire ou d'un point de vue du grand public, et donc travailler sur une promotion des archives dans ce domaine. Voilà.
Alors, les chercheurs que nous sommes, les critiques, travaillent sur les archives, mais parfois ce sont les écrivains aussi qui se servent de leurs propres archives et d'une pluralité de traces pour nourrir leur propre création. C'est-à-dire que l'archive n'est plus un à côté de l'œuvre, mais elle en fait réellement partie intégrante. Un exemple de ce traitement de l'archive et de sa propre mémoire, de sa propre mémoire contenue dans ses traces, que Gwenaëlle Ledo va évoquer à présent, à travers les journaux d'Annie Ernaux comme des archives du moi. Alors Gwenaëlle travaille aussi quelque part rencontre quelque part la question de la mémoire, puisqu'elle travaille sur les fictions biographiques écrites par l'écrivain Jacques-Pierre Hamet, fictions biographiques autour de Voltaire et Brecht, comment reconstruire les biographies de ces grands écrivains. Et c'est un vrai travail, là, pas seulement d'archives, mais de mémoire et de fiction de mémoire. Et donc là, c'est un autre sujet qu'elle a voulu aborder pour cette table ronde, en parlant cette fois-ci d'Annie Ernaux. Donc je lui laisse la parole.
Nous avons vu que les représentations les plus communément partagées placent l'archive du côté de la preuve, de l'attestation et du matériau brut, et davantage dans le champ de l'histoire, de la biographie ou de la génétique textuelle. Notre enjeu est donc ici de déterminer, dans le cas particulier d'Annie Ernaux, quelle place va prendre l'archive dans l'écriture autobiographique. Pour éclairer ce paradoxe qui n'est qu'apparent, rappelons les objectifs d'écriture d'Annie Ernaux. Il s'agit d'écrire au-dessous de la littérature, c'est l'énoncé emblématique de son projet littéraire. Il traduit notamment une méfiance par rapport à ce qu'elle assimile à de la rhétorique, à ce qu'elle appelle ici le beau langage, qui n'est pas son langage originel et qui sera donc toujours à ses yeux, sinon une aliénation, du moins une trahison. Elle se rapproche donc dans ses déclarations métatextuelles de la sociologie, de l'ethnologie ou de l'histoire, qui lui paraissent davantage susceptibles de faire accéder à une certaine vérité de l'être. On a pu parler à ce propos d'auto-sociobiographie, puisqu'elle tend à délittérariser ses textes par différents moyens. Notre premier point abordera donc l'archive en tant que modèle d'écriture et de conception. Ainsi, selon l'exemple qu'on a sous les yeux, quelques techniques d'écriture d'Annie Ernaux miment les archives par une écriture fragmentaire, par la retranscription de bribes de conversation. L'auteur semble constituer elle-même des archives dites du dehors. Il s'agit ici d'énoncés entendus dans le métro, dans le train, d'émissions de radio, d'annonces de grands magasins. On peut insister, en l'occurrence, sur la mise en évidence des indices d'authenticité. Ici, la mention inaudible qu'on voit pour la première phrase entre parenthèses dans notre exemple se veut gage de véracité de la transcription. De manière surprenante, certains de ces textes laissent donc une place à une écriture de type documentaire. C'est le cas également dans cet extrait de L'autre fille, un ouvrage de 2011 bien connu, puisque dans un cadre globalement narratif, certains énoncés de l'auteur miment ou reprennent l'état civil. Ainsi, dans l'exemple que nous avons sous les yeux, dans le livret de famille des parents, presque en lambeaux, à la rubrique « Naissance et décès des enfants issus du mariage », nous figurons l'une au-dessous de l'autre. Toi, en haut, avec deux tampons de la mairie de Lillebonne, scène inférieure, moi avec un seul. Un peu plus loin, de la même façon, elle décrit un plan du quartier. C'était un dimanche en fin d'après-midi, au début de la voie étroite qui longe l'arrière de l'épicerie et du café des parents. La rue de l'école, appelée ici à cause d'une école maternelle privée qu'il y aurait eu au début du siècle. Donc plan du quartier, élément non fonctionnel pour la diégèse et certes décalé par rapport à la tonalité émotionnelle et psychologique de ce récit autobiographique et familial. Quelle est alors leur raison d'être ? On peut considérer qu'il s'agit d'une forme de marquage textuel, un cachet de l'attestation. Pour Annie Ernaux, se fier aux archives, c'est donc donner une chance nouvelle à l'émergence d'une vérité du moi. Les documents constitutifs de l'écriture autobiographique, photos, schémas, correspondances, participent de ce que nous avons nommé les archives du moi. Ainsi, un schéma dessiné dans son journal intime « Se perdre », c'est la vignette ici, a un statut particulier. Il constitue une trace mémorielle et une aide au souvenir, puisqu'elle consigne ainsi un rêve qu'elle a fait la nuit précédente. On peut le rapprocher cette fois d'un intertexte littéraire célèbre et également autobiographique qu'elle cite d'ailleurs. Il s'agit de Stendhal dans La vie de Henri Poulard qui retrace le plan de topographie, peut-on dire, de sa chambre à coucher. S'ajoutent divers documents plus proches des archives au sens propre puisqu'ils existent indépendamment du texte et sont issus d'une véritable recherche. Ces documents sont parfois surprenants. Lorsqu'elle retrouve dans « Mémoire de fille », c'est un ouvrage de 2016, texte de 2016, la liste de ses petits amis du passé. Leurs noms et prénoms, 8 en comptant H et Jacques R. Alors on peut noter à ce propos l'usage de l'initiale, hein, bien sûr, qui est particulièrement inutile, mais simplement garante de l'authenticité du document. Et on remarque qu'elle s'efforce systématiquement de décrire avec précision le support matériel du document retrouvé. Ça peut être une feuille volante, un bloc-notes, etc., ce qui renforce bien sûr la dimension d'enquête autobiographique. De même, elle effectue une recherche concrète en vue d'établir et de mobiliser des extraits de sa correspondance, puisqu'elle demande même à ses amis de photocopier des lettres qui ont été écrites par elle autrefois. Cette démarche d'enquêtrice s'accompagne dans le texte même d'une évaluation des archives. Que valent ces lettres en tant que documents ? C'est donc une tâche d'évaluation caractéristique de la recherche biographique qu'elle exerce ici sur elle-même. Ici, par exemple, le contenu de la correspondance tourne exclusivement autour de la vie scolaire et des lectures. Elle parle de sa propre correspondance, bien sûr, Sagan, Camus, l'homme révolté qualifié d'ardu. Elle se cite, elle s'auto-cite, de l'avenir, de l'existence en général. Le ton est vibrant, exalté. Elle parle de son propre ton d'écriture adolescente. La proclamation que la vie vaut d'être vécue, auto-citation, revient souvent. À propos du bal où elle est allée au carnaval d'Yvetot, il n'y a rien sur ses parents. Ici, l'emploi de la troisième personne pour parler d'elle-même manifeste un effort d'objectivation qui accompagne cette distance critique. L'évaluation de ses propres archives est également d'ordre énonciatif. Ainsi, à propos d'une lettre qu'elle avait écrite à son amie Marie-Claude, « Nul doute que ces lettres, pour sincères qu'elles me paraissent, ne soient imprégnées cependant du désir de manifester à Marie-Claude une similitude de goût, de sensation et de posture à l'égard des autres et de la vie. C'est le signe que je est un autre, ou plutôt que les traces du je peuvent finalement être les traces de quelqu'un d'autre, ou d'une autre posture énonciative, celle qui avait été adoptée par elle dans le passé. Et donc en jeu dans ce texte la construction simultanée de deux ethos, celui de l'écrivain actuel, contemporain, versus l'éthos de la jeune fille d'autrefois. Elle rejoint donc par cette réflexion métatextuelle l'un des principes fondamentaux de la recherche biographique dans le traitement de la correspondance des écrivains, notamment, à savoir ne pas considérer que la lettre est par nature une source d'information objective. Annie Ernaux exerce donc sur elle-même, une analyse discursive qui est d'ordinaire le propre des biographes. Dans cette dernière citation, c'est davantage dans les poèmes et les phrases d'écrivains soigneusement recopiées dans un agenda de 1958 en carton rouge, un grand agenda commercial offert par un fournisseur de fromage, etc. Cet exemple illustre ce que nous avons déjà rencontré plus haut, à savoir l'association fréquente chez Annie Ernaux d'objectifs littéraires et quasi-existentiels et de détails extrêmement concrets ayant trait dans ce cas précis au support très matériel puisqu'il s'agit du fournisseur de fromage, ainsi qu'au parcours spatial de ses archives, à savoir conservé au travers de mes déménagements. Nous avons donc affaire à un discours de la méthode, puisque le fait d'expliciter sa démarche lui semble susceptible d'éloigner la littérature de ce qu'elle appelle le pathos et de la rapprocher, si possible, d'une démarche scientifique. Pour finir sur ce deuxième point, nous n'aurons pas le temps d'exposer ce qui a trait aux photographies, donc disons simplement qu'elles tiennent une place conséquente dans l'œuvre autobiographique d'Annie Ernaux, avec cette particularité qu'elles sont en général non pas reproduites mais seulement décrites. On signalera simplement à ce propos que sa recherche documentaire s'élargit aux documents contemporains. Ainsi, plusieurs recherches sur Google, elle cite Google, lui permettent de comparer la topographie actuelle à ses traces ou à ses souvenirs, ou même, éventuellement, de comparer à ses souvenirs des photos récentes de ses anciens camarades. Le dernier point, les journaux d'Annie Ernaux, la verbalisation du vécu. On peut rappeler que l'écriture des journaux intimes, de manière générale, ressortit à ce que Martine Boyer-Weinmann nomme la verbalisation personnelle. Tout simplement, la verbalisation personnelle se produit lorsqu'un acte est traduit en mots par celui qui l'a vécu. On montre ainsi qu'on a affaire à un témoin direct, mais jamais pour autant, bien sûr, à une réalité brute. L'auteur distingue cette première forme d'un deuxième mode de reprise du vécu, le travail de reformulation. La reformulation personnelle, on la réalise lorsque le récit d'un événement est repris au moyen d'autres termes par l'individu qui l'a vécu. Ces deux concepts s'avèrent opératoires pour l'œuvre d'Annie Ernaux, puisque chez elle, plusieurs événements clés trouvent une double représentation, dans des cadres formels différents. Ainsi, la passion amoureuse pour un diplomate russe qu'elle appelle S est représenté une première fois dans Se perdre, qui est un journal dit intime, brut, et une seconde fois dans l'écrit Passion simple, qui est qualifié par Annie Ernaux de roman autobiographique. À ce sujet, elle distingue une version longue, écrite au jour le jour, dans l'opacité du présent, ce sera donc le journal intime brut, et l'autre forme, dite brève, épurée, tournée vers la description de la réalité de la passion. Le plus intéressant pour nous ici est en fait l'inversion de la chronologie, puisqu'en fait le récit synthétique Passion simple a été publié bien avant le journal intime. Quel a donc été l'intérêt spécifique du projet qui consiste à publier plusieurs années après le journal intime brut, qui apparaît donc après sa réécriture? En fait, Annie Ernaux explique, il s'agit de la diapositive que vous avez sous les yeux, qu'en janvier ou février 2000, elle a commencé à relire les cahiers de son journal. Elle s'est aperçue qu'il y avait une vérité autre que celle qui était contenue dans Passion simple. Quelque chose de plus cru, quelque chose de plus violent, quelque chose de plus noir et sans doute de plus authentique. Il y a donc ici un double mouvement qui consiste d'abord à utiliser ses propres archives pour produire le texte Passion simple, synthétique, et plus tard un deuxième temps qui consistera à revenir à ses propres archives pour les publier de la manière la plus brute possible avec le journal intime Se perdre. On peut s'interroger, nous n'aurons pas le temps, sur la valeur ajoutée de ces archives presque brutes du point de vue de la réception. On peut supposer que le vécu par le lecteur de la répétition du journal intime, les mêmes attentes, les mêmes doutes, les mêmes moments, sont mimétiques de cet enfermement passionnel. Nous avons donc deux modalités différentes ici pour appréhender une vérité. Ce sont différents essais d'écriture et Annie Ernaux parle volontiers de chantier. Ces tâtonnements explicités nous amènent à conclure en posant deux questions, en ouvrant sur deux pistes. Il semble que se rapprocher de la notion d'archive pour relever le défi de la saisie du réel est une démarche habituelle chez les biographes, mais un peu plus surprenante chez les autobiographes. À la fin de son dernier texte, Mémoire de fille, Annie Ernaux livre soudain une piste possible et complémentaire pour son projet. C'est donc cette avant-dernière vignette. Il me vient l'impression que tout cela aurait pu être écrit autrement, comme un rapport de faits bruts, par exemple, ou bien à partir des détails. La savonnette de la première nuit, les mots écrits au dentifrice rouge, la porte fermée de la deuxième nuit, le jukebox qui jouait Apache dans le coffee shop de Tally Ho Corner, le nom de Polanka gravé profondément dans un bureau du lycée. Il y a donc ici l'idée ou le fantasme peut-être du fait brut ou de l'objet qui témoigne. C'est la piste qui d'ailleurs a été exploitée dans un roman contemporain très récent intitulé « Tout cela n'a rien à voir avec moi ». De Monica Sabolo, qui utilise précisément la photographie, la trace et la représentation de l'objet, comme Annie Ernaux le suggère déjà, sur un mode ludique. Ici, nous avons par exemple le plan d'un open space et la photographie d'un briquet qui est emblématique dans ce roman de la passion amoureuse. On observe donc dans ce roman très récent la reprise en mention de ce procédé mis en lumière à travers les œuvres d'Annie Ernaux. Il s'agit d'une ironie qui n'exclut pas la recherche d'authenticité d'un projet qui s'inscrit dans une intertextualité explicite, puisque précisément ce roman, tout cela n'a rien à voir avec moi, cite Passion simple d'Annie Ernaux. Pour conclure, la question qu'on pourrait légitimement se poser est la suivante. Y a-t-il une mise en scène de l'authenticité chez Annie Ernaux? On décèle dans ces textes la précaution, le scrupule, parfois l'affichage d'une volonté de tout dire qui se trouverait malencontreusement empêchée. On peut donc lui objecter qu'on retrouve par là un effet rhétorique et que ces partis pris formels, parmi tant d'autres, conduisent finalement à relittérariser le texte. On peut penser également que ce parti pris qui informe les textes procède d'une conviction forte chez Annie Ernaux, à savoir que la sociologie, l'ethnologie, l'histoire sont des champs auxquels elle confère le pouvoir d'accéder à une forme de vérité. Dans un processus d'hybridation méthodologique avec la littérature, elle identifie donc une voie nouvelle pour son projet d'écriture.
Merci beaucoup pour cet exposé qui nous montre que Les écrivains ont aussi le goût de l'archive. Par rapport à la question que vous posiez sur l'utilisation de l'archive dans l'autobiographie, il y a des précédents importants, et je citerai George Sand qui, dans son histoire de sa vie, intègre dans toute la première partie la correspondance de son père et de sa grand-mère. Alors, ça rejoint aussi Annie Ernaux. Quand on travaille sur les textes, je l'ai fait un petit peu pour voir comment la correspondance est figurée dans le texte, elle n'est pas réécrite, mais elle est quand même retouchée. Hein. Elle est retouchée, elle est sélectionnée, elle est triée. Et en fait, du coup, Sand, à travers cette correspondance, et mine de rien, recompose une autre histoire familiale, hein, que celle que le lecteur extérieur que l'on peut être quand on découvre cette correspondance qui est conservée à la BHVP, on voit pas peut-être la même histoire, hein. Donc il y a des manières très subtiles, et un écrivain est quand même quelqu'un qui sait faire les choses de façon subtile pour retoucher, s'en transformer. Et je crois que ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, et c'est que ça nous invite aussi à réfléchir sur ce mythe, enfin, est-ce que c'est un mythe, en tout cas sur cette croyance qu'on a les uns et les autres, souvent dans la sincérité de l'archive. Hein. Bon, il faut peut-être aussi revenir là-dessus et se dire que tout n'est pas si transparent que cela. On va s'arrêter là en vous remerciant d'avoir participé, en remerciant les participants et le public, hein, d'être là pour cette table ronde sur les archives de la création comme mémoire. Merci à tous. Merci.